Vous êtes avec SBS French.
Les principales actualités de ce mardi 20 octobre. La pandémie de COVID-19 franchit le cap des 40 millions de cas à travers le monde, en raison notamment d'une résurgence importante du virus en Europe. En Australie, le Parlement examine la loi Jobmaker. Si elle est votée, les entreprises toucheront 200 $ par semaine pour chaque personne embauchée de moins de 35 ans. Et puis en Corée du Sud, qui a plutôt très bien géré la crise du coronavirus, les élèves ont retrouvé hier, lundi, le chemin de l'école. Le coronavirus a donc passé la barre des 40 millions de cas à travers le monde et fait plus de 1,1 million de victimes. La situation empire, en particulier en Europe, où face à la résurgence du virus, on remet en place des restrictions un peu partout. La France et la Belgique ont décrété le couvre-feu. Le Pays de Galles, un confinement total pour une durée de 17 jours à partir de vendredi. Et les ouvertures de bars et restaurants en Italie sont de nouveau limitées. Mais le Premier ministre italien Giuseppe Conte insiste sur l'urgence à enrayer cette deuxième vague en Europe.
These measures will have to allow us to face this new wave of spread that is hitting not just Italy, but the whole of Europe. We cannot waste time. We have to act using all the possible measures to avoid a new total lockdown.
En comparaison, la situation reste beaucoup moins alarmante en Australie, y compris dans l'état du Victoria, où on enregistre aujourd'hui seulement un nouveau cas de transmission communautaire. D'ailleurs, les autorités locales pourraient alléger certaines restrictions à partir de ce week-end, même si pour l'instant, l'arrivée de voyageurs depuis l'étranger n'est pour l'instant pas d'actualité à l'aéroport de Melbourne. Ceci étant dit, on en discute et on en réfléchit puisque il serait envisagé, par exemple, d'imposer à ces voyageurs de retour de l'étranger, lorsque l'aéroport de Melbourne acceptera de nouveau des vols internationaux, eh bien, il est envisagé que ces voyageurs de retour de l'étranger puissent porter un bracelet électronique, une mesure qui serait une première en Australie, même si des initiatives similaires ont été prises ces derniers mois à Hong Kong, en Corée du Sud ou encore à Singapour. Alors dans le cas du Victoria, si cette mesure était adoptée, les bracelets électroniques se superposeraient au système de quarantaine à l'hôtel qui devrait, lui, ne pas totalement disparaître. Et puis les restrictions, elles seront également bientôt allégées en Australie-Occidentale où les théâtres, les bars, les restaurants, les salles de concert pourront accueillir plus de monde à partir de ce samedi. Néanmoins, le chef du gouvernement, Mark McGowan, appelle malgré tout ces établissements recevant du public à rester vigilants.
As a government, together with the Chief Health Officer, we will continue to review these arrangements to determine if COVID-safe solutions are possible in the future. The Chief Health Officer has recommended a further 2 months be considered for phase 4 modified measures.
Et vous le savez, depuis vendredi, les Néo-Zélandais peuvent de nouveau entrer en Australie. Pour l'instant, ils ne peuvent aller que en Nouvelle-Galles du Sud et dans le territoire du Nord. Mais les dirigeants des autres États doivent s'entretenir ce vendredi avec le gouvernement fédéral pour décider d'une ouverture plus large des frontières australiennes aux Néo-Zélandais. La Tasmanie, où les mesures de contrôle du virus ont été particulièrement strictes, pourrait être le prochain État à s'ajouter à cette liste, mais son dirigeant, Peter Gutwein, prévient malgré tout qu'il maintiendra l'obligation de quarantaine pour les Néo-Zélandais.
But to be clear to New Zealanders that are travelling at the moment, if you travel to Tasmania via another jurisdiction, you will be required to enter 14 days of mandatory quarantine as it stands at the moment. But we'll have more to say on Friday in terms of that.
Et elle avait été annoncée par le gouvernement fédéral lorsqu'il a présenté son budget. La loi Jobmaker a été votée hier par le Parlement australien. Cette loi est destinée à relancer l'emploi, en particulier l'emploi des jeunes, puisque la loi Jobmaker prévoit un versement de $200 par semaine aux entreprises de la part du gouvernement pour chaque employé âgé de moins de 35 ans. La loi n'est pas encore totalement entrée en vigueur puisqu'elle doit en préalable être approuvée par le Sénat. Elle sera examinée par la Chambre haute le 9 novembre prochain. Et pour sa part, la ministre de l'Emploi, Michaela Cash, a expliqué dans le Today Show que les entreprises pourraient s'inscrire à ce dispositif à partir du mois de décembre, mais que l'aide, elle, en revanche, sera appliquée rétroactivement dès ce mois-ci, le mois d'octobre.
I really do hope that Labor stand up and they back this good policy to get our young people into work as quickly as possible. A $4 billion hiring credit estimated to support around 450,000 young people. I think the Prime Minister made it clear. Our budget was a budget that was all about jobs. Jobs, jobs, jobs. And the youth hiring credit is part of that policy.
Et même si elles ne sont pas toujours très faciles à vivre, les restrictions mises en place en Australie occidentale, mais aussi dans tous les autres États australiens, ne semblent pas affecter outre mesure la popularité des dirigeants respectifs de ces États. C'est notamment le cas, effectivement, de Mark McGowan, qui dirige l'Australie occidentale et qui recueille, d'après les tout derniers sondages News Poll, 84% d'opinions positives. Idem pour les autres dirigeants, par exemple Gladys Berejiklian qui dirige les Nouvelles-Galles du Sud et qui malgré la semaine passée émaillée par un scandale lié à une relation passée avec un ancien député actuellement sous l'objet d'une enquête pour de possibles faits de corruption, n'a visiblement pas ébranlé donc Gladys Berejiklian qui elle recueille 68% d'opinions favorables. Et même Daniel Andrews dans le Victoria et malgré le confinement à Melbourne, eh bien, il reste majoritairement soutenu avec 54% d'avis favorables. Et pour terminer, c'est également le cas d'Anastasia Palaszczuk dans le Queensland. Même si elle est très critiquée pour avoir maintenu les frontières fermées avec la Nouvelle-Galles du Sud en particulier, la dirigeante travailliste recueille à quelques jours seulement des élections dans l'État du Queensland 62% d'opinions favorables. Et aux États-Unis, une nouvelle charge violente de Donald Trump contre le docteur Anthony Fauci. Le principal expert du coronavirus aux États-Unis a une fois de plus été la cible du président américain. Donald Trump, dont la réélection est très loin d'être assurée, alors que le Covid-19 a tué plus de 210 000 personnes aux États-Unis. Il a confié le président américain à des membres de sa campagne que les gens étaient, je cite, « fatigués d'entendre Fauci et tous les autres idiots ».
But there's a bigger bomb if you fire him. But Fauci's a disaster. I mean, this guy's, if I listen to him, we have 500,000 deaths.
Et contrairement aux États-Unis, la Corée du Sud est l'un des pays parmi ceux qui ont été les moins touchés par la pandémie. On y recense selon les dernières statistiques, un peu plus de 400 morts depuis le début de l'année. C'est donc mieux encore en termes de bilan que l'Australie. Et ce lundi, d'ailleurs, les élèves ont retrouvé pour la première fois depuis des mois le chemin de l'école. Écoutez les explications de Nicolas Roca.
Les établissements scolaires remplis aux deux tiers, une scène que la Corée du Sud n'avait pas connue depuis le printemps dernier. Ce lundi, les nouvelles mesures de distanciation physique rentrent en vigueur. Sur fond d'inquiétude, tout de même, après l'identification de plusieurs foyers de contamination dans des centres de soins. Un hôpital à Busan, dans le sud du pays, recensait plus de 50 cas la semaine dernière. Idem ce lundi dans une autre maison de soins dans la ville de Gwangju. Résultat ce lundi, retour à la vie normale arrimée avec dépistage massif. 130 000 fonctionnaires de santé travaillant avec les personnes âgées devront être testés dans le courant du mois. ainsi que 30 000 patients. Pour autant, le gouvernement cherche à ce que l'assouplissement des mesures permette un retour de l'activité pour les secteurs les plus touchés, le sport et la culture. Dès jeudi seront donc mis en place des distributions de coupons de réduction pour les musées, les expositions d'art, les stades et bientôt les cinémas pour inciter le public à reconquérir les lieux. Des inspections sont prévues pour garantir le respect des nouvelles consignes sanitaires. Nicolas Roca, Séoul, RFI.
Et 6 officiers militaires russes sont poursuivis par le département américain de la justice. Ils sont accusés de piratage informatique et des attaques dont les dégâts sont estimés par les autorités américaines à plus $1 milliard. Les hackers visés par cette procédure sont des officiers du GRU, le service de renseignement de l'armée russe, et qui, d'après le FBI, ont mené des attaques ciblant les milieux politiques, financiers, mais aussi sportifs. Écoutez le directeur adjoint du FBI, David Bowditch.
This activity went well beyond traditional intelligence collection. The GRU targeted the global energy sector, the international political groups, hospitals, and even the Olympics. Time and again, Russia has made it clear they will not abide by accepted norms, and instead, they intend to continue their destructive and destabilizing cyber behavior.
20 000 personnes mobilisées hier à Bangkok au quatrième jour consécutif de manifestations contre le pouvoir, des manifestations qui ont lieu malgré l'état d'urgence décrété par les autorités. Ce mouvement de contestation, qui a été initié par la jeunesse thaïlandaise, a trouvé ces derniers jours quelques soutiens de poids parmi les stars du pays. Reportage de Carole Issou à Bangkok.
C'est une première dans un pays où les artistes dépendent souvent des largesses des super riches, une poignée de familles qu'on sait en général assez proches de la famille royale directement mise en cause dans ces manifestations. Le chanteur ultra célèbre d'un groupe de K-pop et plusieurs reines de beauté ont publiquement annoncé leur soutien moral et parfois financier aux manifestations. Les plateformes des fan clubs de certains de ces artistes sont désormais utilisées pour récolter des fonds en faveur des manifestants et notamment pour régler les frais d'avocat de tous ceux qui ont été emprisonnés depuis le début du mouvement, environ 200 personnes. Un soutien financier bienvenu pour l'avenir du mouvement qui demande toujours le départ du gouvernement et une réforme de l'institution monarchique. Pour l'instant, les organisateurs n'ont pas encore annoncé le prochain lieu de rendez-vous, mais promettent une mobilisation massive dans les prochains jours avec des innovations stratégiques afin de faire plier le gouvernement. Carole Issou, Bangkok, RFI.
Il faut l'ordre public.
La France va rendre un hommage national au professeur Samuel Paty, cet enseignant qui a été tué il y a quelques jours par un terroriste islamiste. Lundi, des imams se sont rendus devant le collège de banlieue parisienne où il enseignait pour lui rendre hommage. Parmi eux, l'imam de Drancy, Hassen Chalgoumi, appelle les autorités à punir ce crime avec la plus grande sévérité.
Il faut l'ordre républicain. La première chose, on a parlé au ministre de l'Intérieur, la formation des imams. Il faut des cadres religieux, il faut une vraie réforme. Nommer les choses comme elles sont. L'islamisme, il existe. C'est le poison de l'islam. C'est une maladie de l'islam. Il faut le combattre. Dans les pays musulmans, ils combattent l'islamisme. L'islam politique, il est interdit dans certains pays. Abu Dhabi, Bahreïn, l'Égypte et ailleurs, plein de pays. Pourquoi chez nous, on n'interdit pas l'islamisme? Jusqu'à quand notre jeunesse en a payé 130 jeunes, presque? Jusqu'à quand? Des dizaines de policiers? Jusqu'à quand? Des dizaines de journalistes? À quel degré? Jusqu'à la société, elle se réveille. La formation des imams et aussi des médiateurs dans les quartiers. Et qui parlent? Qu'est-ce que ça veut dire, Charlie? Qu'est-ce que ça veut dire, la liberté d'expression? C'est quoi l'islam et l'islamisme? Deuxième chose, le numérique. Internet, elle nous fait de tort, le numérique. GAFA, je l'appelle, j'ai le sonnellement. Réveillez-vous, soyons fermes. Il y a des vies, c'est pas la liberté d'expression. Il y a des vies qui sont menacées. Est-ce que vous trouvez ça normal?
Et c'était l'imam Hassen Chalgoumi qui répondait aux questions de Sylvie Coffi pour Radio France Internationale. On reviendra en détail sur cette dernière attaque terroriste d'ici quelques minutes dans notre chronique sur l'actualité française. On finit d'abord ce bulletin avec un coup d'œil sur la météo de ce mardi en Australie. 26 degrés à Perth, 25 degrés à Adélaïde, 18 degrés à Melbourne, 20 à Canberra, 22 degrés à Sydney, 27 degrés à Brisbane, 32 degrés à Cairns, qui est aujourd'hui l'un des rares endroits en Australie qui n'est pas couvert par des nuages, et enfin 33 degrés à Darwin.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.